Chapitre 41. Alice retrouve Ophélie chez elle, à la villa, pour le déjeuner. La jeune femme est à présent âgée de 25 ans. Pour se différencier de sa mère, elle arbore des cheveux courts qu'elle teint en mauve. Elle ne porte pas de tunique ou de robe, mais toujours une salopette en jean qu'elle a confectionnée avec les vêtements apportés à leur arrivée. Elle a un t-shirt mauve comme ses cheveux. De même, ses chaussures sont des baskets à semelles épaisses typiques de l'avant-guerre. Elle ne porte aucun bijou. En revanche, elle a toujours à la ceinture des outils de jardinage et de bricolage pour pouvoir intervenir en toutes circonstances. Le repas des deux femmes sapiens sont en général composés de fruits issus des cueillettes des aérials, de légumes et de racines produits par les diggers, mais aussi d'algues récoltées par les nautix. Pour la partie protéines, les aérials fournissent des œufs de perdrix, les nautix des carpes et des brochets. « Je dois t'avouer que je commence à m'inquiéter », dit Ophélie en regardant à travers la fenêtre un match de football entre jeunes diggers et jeunes nautix qui tournent au vinaigre à cause d'un pénalty non sifflé. « Les relations ne sont pas au beau fixe entre les trois espèces. » Alice hausse les épaules en remplissant leurs assiettes de la salade qu'elle a préparée. « Oui, j'ai entendu parler d'incidents, ce n'est peut-être pas grave. »«
Ne me dis pas que tu es dupe !»
s'emporte la jeune femme.
Devant toi, ils font semblant de tous s'aimer parce que tu es la mère et qu'ils te reconnaissent une réelle autorité. Mais avec moi, ils se révèlent vraiment et je me rends bien compte que tout n'est pas si harmonieux.
Je vais essayer d'être plus attentive, promet Alice.
Et il n'y a pas que ça, poursuit Ophélie. De ta part, ils reçoivent les mêmes enseignements, mais certains professeurs moins impartiaux leur dispensent des cours, disons, orientés.
Je t'écoute. Dit Alice que le discours de sa fille perturbe plus qu'elle ne le voudrait.
Prenons les mathématiques. Les aérials privilégient ce qui est en rapport avec le cercle et le chiffre 1. Les diggers, tout ce qui touche au triangle et au chiffre 3. Et les nautix, au carré et au chiffre 4.
C'est peut-être en lien avec leur architecture, avance la scientifique. Les aérials ont des nids sphériques, soit un seul trait pour réaliser ce rond. Les nautix, des maisons sur pilotis cubiques, quatre traits pour faire un carré. Et les diggers sont une cité pyramidale, donc trois traits.
Peut-être, mais ça n'excuse pas le mépris des aérials envers les autres espèces, qu'ils nomment entre eux les peuples d'en dessous ou les rampants.
Dans le monde d'avant, les soldats de l'armée de l'air se sentaient déjà supérieurs à ceux de l'infanterie ou de la marine, rappelle Alice.
Justement. À propos du monde d'avant, chacune des espèces hybrides a une explication différente concernant les raisons de l'apparition de la Troisième Guerre mondiale. Pour les diggers, les sapiens se sont entretués parce qu'ils avaient empoisonné la terre avec leurs fongicides, leurs pesticides et leurs herbicides. Du coup, la terre, malade, a produit des légumes et des fruits qui ont rendu les hommes agressifs et suicidaires.
C'est un point de vue qui se défend, admet la scientifique.
En toute logique, les nautix considèrent que c'est parce que les sapiens ont empoisonné les rivières, pollué les fleuves et rendu l'océan plus acide que des pulsions d'autodestruction sont apparues. Ils parlent des tankers de pétrole qui ont fait naufrage, vomissant leur huile noire mortelle dans la mer, de pluies toxiques et de fonte des pôles.
Et les aérials, que pensent-ils?
Eh bien, pour eux, la cause est la pollution de l'air. Ils évoquent le trou dans la couche d'ozone comme responsable de la folie des sapiens. Il aurait laissé passer des rayons nocifs pour les cellules nerveuses. De même, le fait que les gros avions aient labouré, c'est le terme qu'ils utilisent, les nuages avec leurs réacteurs a généré des trous d'air et des perturbations qui ont accéléré l'apparition des typhons et des ouragans.
C'est là encore une hypothèse crédible.
En colère, Ophélie lâche avec violence sa fourchette dans son assiette, faisant sursauter Alice. Mais maman, tu ne vois donc rien ? Tu ne te rends pas compte que chacune des trois communautés réécrit l'histoire que tu leur enseignes pour prouver qu'elle a raison et qu'elle est l'espèce qui doit dominer le monde? Ils perçoivent leur propre existence comme une réponse de la nature à l'agression des sapiens. Les aérials vengent l'air, les diggers vengent le sol, les nautix vengent l'eau. Ils sont en concurrence pour se venger des sapiens qui ont tout saccagé.
Alice secoue la tête en signe de dénégation.
Je ne le crois pas.
Maman, je te jure qu'ils ne sont pas francs avec toi. Ils sont comme des enfants qui veulent l'amour exclusif de leur mère et ils sont prêts à tout pour avoir ta préférence.
Ils sont les énergies complémentaires de la vie, proteste Alice.
Souviens-toi, ADN, aérial, digger, nautique, blanc, noir, bleu. Des aménagements sont forcément nécessaires pour que chacun trouve sa place et son territoire d'action.
Alice se lève et prend dans un meuble un échiquier un peu spécial. Le plateau a la forme non pas d'un carré, mais d'un hexagone. Et la partie se joue à trois, les blancs, les noirs et les bleus.
Tu te rappelles ce jeu ?
Demande-t-elle.
Oui, c'est le jeu de Yalta, le jeu d'échecs à trois joueurs. Hermès, Hadès et Poséidon s'affrontent parfois durant des parties interminables.
Parce que je les y encourage. L'un des principes de ce jeu est que ce n'est pas le meilleur joueur qui gagne, mais celui qui arrive à faire alliance avec l'un de ses adversaires pour battre le troisième. À vouloir gagner trop tôt, les participants risquent de perdre en créant l'union contre eux.
Alice met le plateau de jeu sur la table devant elle et y dispose les pièces. Les deux femmes observent les figures alignées, prêtes à se déployer pour combattre. Ophélie scrute sa mère et finit par rompre le silence.
Désolée de te le dire, maman, mais le jeu de Yalta ne suffira pas à apaiser leur rivalité et encore moins à épuiser leur pulsion guerrière.
Alice revient à son assiette. Elle mastique lentement les légumes avant de reprendre la parole.
La nature elle-même est violente. Les séismes, les tsunamis, les tornades balaient la terre en alternance et de façon régulière. Il suffit d'attendre et tout se calmera à nouveau.
Je crois au contraire que le temps n'arrange rien, répond la jeune femme. Les hybrides vont avoir de plus en plus de difficultés à se comprendre et à s'estimer entre eux. Il suffit d'entendre les insultes.
Quel genre d'insultes ?
La coupe Alice.
Tête de limace, rat volant, résidus de vase.
Mais il n'y a pas que les insultes,
insiste Ophélie.
Ils ont chacun développé des jargons incompréhensibles pour les autres.
Des expressions liées à leur élément de référence, rien de plus.
Ophélie quitte la table pour débarrasser son couvert.
Mais le phénomène ne fait que s'accentuer, maman,
dit-elle tandis qu'elle lave son assiette.
Chaque groupe est en train d'inventer sa langue spécifique et un jour, ils ne se comprendront plus entre eux.
Tu exagères.
Ce que tu peux être naïve parfois,
lâche Ophélie avec exaspération.
Tu idéalises tes créations au point d'en devenir aveugle face aux dangers à venir.
Je reconnais bien là la part génétique de ton père. Simon avait peur de tout. Il a été transformé par son milieu et il a transmis sa paranoïa à sa fille. Un exemple vivant d'épigénétique.
Je crois surtout que le positif est supérieur au négatif, explique Alice avec calme. Nous sommes tous de chanceux survivants de la Troisième Guerre mondiale, tous des exilés de New Ibiza. Nous avons tous ensemble bâti à partir de rien cette communauté de Cucufa. Avec le temps, tout va se stabiliser et s'arranger.
Eh bien moi, je crois que c'est le contraire. Avec le temps, tout ira de mal en pis.
Et voilà une phrase typique de son père. Comment quelqu'un peut-il à ce point transmettre son esprit à ses enfants ?
Ophélie se prépare un café lyophilisé qu'elle boit à petites gorgées nerveuses. Elle reste à observer l'étang de Cucufa par la fenêtre de la villa.
Je vis avec eux, maman. Je les vois. Je les entends. Je les comprends. Ils se détestent. Ils vont finir par s'entretuer,
décrète-t-elle d'une voix sombre.
Et l'on ne pourra pas l'empêcher.
Quel est ton objectif, ma chérie ?
Qu'ils s'entendent entre eux. Il ne sert à rien de créer des êtres si c'est pour qu'ils se détruisent mutuellement.
Alice rejoint sa fille à la fenêtre et l'enserre de ses bras.
Ce n'est pas à toi que revient cette tâche. Elle fait encore partie de mes prérogatives.
Ophélie se dégage et dévisage sa mère.
Mais tu ne fais rien.
Si, je les aime et je leur fais confiance.
Moi aussi je les aime, maman. Mais les abandonner à leur pulsion aboutira encore à la guerre.
Tu les aimes comment ? Demande Alice à brûle-pourpoint.
Ophélie fronce le sourcil.
Tu veux savoir si je fais l'amour avec eux ? C'est ça, maman ?
Je t'ai vu les embrasser alors que tu n'avais que 15 ans. C'est normal que je me demande si vos sentiments ont évolué. »
Les deux femmes se regardent. Ophélie toise sa mère avec dureté.
« Plutôt que de te mêler de ma vie privée, maman, tu ferais mieux de réfléchir à ce que je viens de te dire.
« Je t'aime, ma fille. » En joignant le geste à la parole, Alice presse Ophélie contre sa poitrine.
« Ce soir, c'est la fête d'anniversaire de la création de notre communauté de Cucufa. J'ai préparé un discours en vue de ressouder les trois communautés. Et ensuite aura lieu le RM, la grande compétition du relais multidisciplinaire. »
La scientifique se rassoit devant le jeu d'échecs de Yalta à trois camps.
Les cérémonies, les fêtes et les jeux sont les meilleurs moyens de ressouder les peuples en terrain neutre.
Enfin, je l'espère de tout mon cœur.